France Culture.
C'est une jolie blague, pas encore marrante. Ok, je note. Il y a des blagues comme ça qui sont jolies et pas marrantes.
Moki Bar, à Paris, novembre 2024.
J'ai fait chercher, on dit souvent, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Si tu veux savoir où tu vas dans la vie, n'oublie jamais d'où tu viens. » Ok. Moi, je m'appelle Certes Mathurin. Je me suis dit, ok, j'ai un enfant maintenant. Est-ce que c'est peut-être le moment de voir un peu d'où vient ma famille, parce que j'ai pas beaucoup d'informations. Et le nom Mathurin est apparu. Je suis haïtien d'origine. On a dit au XVIIe siècle également, en même temps que l'esclavage. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne crois pas du tout. J'ai regardé d'où vient ma famille Mathurin. C'est les gens qui possédaient mes ancêtres. Possédé. Hein, vraiment, c'était pas la même famille. Hein, vraiment, ils avaient des tables, des chaises et mes ancêtres. C'est à peu près ça, quoi. Ah, les blancs rigolaient, c'est moi qui le dis, aussi, là. Je sais que c'est pas vous. Oh, là, c'était pire que la blague sur les catholiques. Oh, là, là. Bon, on va attendre la prochaine blague tranquillement. On va se détendre. Je sais que c'est pas vous.
J'ai le sentiment que le stand-up, en venant interpeller les spectateurs de façon plus directe...
Mohamed El Khatib, metteur en scène.
Pointe aussi votre responsabilité dans la situation actuelle. Le stand-up, contrairement à elle, ne fait pas l'économie de cette interpellation qui peut mettre les gens en mouvement. Alors, il y a naturellement la diversité des récits qui sont portés, et donc des récits qu'on n'entend pas habituellement sur les scènes de théâtre public. Mais de plus en plus, on peut dire que l'ensemble des thématiques politiques maintenant sont abordées sur les scènes européennes. Mais pour autant, j'ai le sentiment que elles sont abordées de façon un peu complaisante, c'est-à-dire de nature à dispenser le spectateur ou la spectatrice d'agir, et de faire comme s'il n'était pas une partie du problème, et que le stand-up permet ça. Là où dans le fond, dans le théâtre, vous êtes confortablement assis sur votre fauteuil, au mieux vous êtes touché ou un peu indigné, et puis après vous rentrez chez vous, vous mangez et vous passez à autre chose, quoi.
C'est ça que j'aime dans le stand-up, c'est direct. Je viens du monde, du quotidien, du réel, et je parle à des gens qui sont dans le quotidien et dans le réel. Moi, je trouve que le rire, c'est ma passion aussi, mais ça permet vraiment de... J'ai l'impression que quand on rigole ou quand on s'amuse, notre cerveau est beaucoup plus ouvert à accepter les idées, quoi.
Faire rire sur scène, une série documentaire de Romain de Becdelièvre et Anne de Pelchin.
Épisode 2. Comment rire de tout ?
Le cabaret et ce genre de spectacle comique, c'est les formes de la nuit.
Joss Houben, comédien et pédagogue.
Où on entre dans une ambiguïté, où les valeurs ne sont pas si claires. Il faut laisser certaines choses dans le flou. Je crois, c'est très important. On les met trop à la lumière, on peut trop les définir. Et de nouveau, on reste figé. Il y a tellement de choses qui ne sont pas si claires que ça. Et par l'humour, ou par la blague, ou par le silence du mouvement d'un clown, on dit oui, il y a des choses insondables quand même. Et on rit, et la réponse est dans le rire, je crois.
Guillaume Aurignac, critique.
Il faut savoir que les comédie clubs à l'origine, et encore aujourd'hui, le plus possible, on essaie de s'y tenir, c'est des plafonds très bas, on est dans le noir, les tables ne sont pas, c'est pas des sièges répartis devant une scène, la scène est à peine visible, c'est construit comme si c'était une cave en fait, comme si on jouait dans une cave. Alors la cave, elle a une double fonction, cette idée de la cave, cette symbolique. La première fonction, c'est qu'on est en bas dans l'édifice social, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans un refuge et dans quelque chose, dans un secret de l'édifice social. Donc on va pouvoir parler librement, on est à l'abri des juges de la société, en fait. Mais on se juge soi-même, hein, dans la société, quand je dis les juges, c'est nous-mêmes, on se juge les uns les autres. On est à l'abri de ça, et c'est aussi la symbolique du bas, de la bassesse, c'est-à-dire qu'on descend dans les entrailles de l'être humain. On descend au fond de la cave, littéralement.
Il y a aussi un peu d'un maximum de bruit.
Café Oscar, Comédie Club à Paris, novembre 2024.
Du coup, il y a des gens qui sont un peu venus comme ça par hasard. Vous, mesdames,
ouais.
Bienvenue.
Merci.
Vous savez un petit peu ce que c'est ce soir? Vous savez un petit peu dans quel endroit vous avez mis les pieds? Non, vous êtes dit des femmes, des femmes nues au mur.
Ouais, c'est ça,
tout.
Ça a l'air sympa.
On c'est y pas va. Ça, du coup. Si, si, c'est ça, ah, c'est okay, le striptease à 19h30, là, dans 10 minutes, on arrive.
Nickel.
Voilà. Non, en fait, là, ce soir, c'est du stand-up, du coup, pendant une heure. Il va y avoir 10 humoristes qui vont passer. Je me dis, waouh, 10, c'est beaucoup. Mais ils ont 5 minutes chacun. Le but, c'est de vous casser en deux, quoi. Sans se figurer, hein, des blagues. On va faire des blagues. Voilà, ça, c'était une blague nulle. Vous voyez, vous avez bien réagi. Vous m'avez regardé avec un regard gentil. Vous m'avez accompagné dans ma défaite. Et ça, ça fait plaisir. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu de stand-up dans la vraie vie, comme ça, comme je suis en train de vous parler? Du coup, par applaudissement, s'il vous plaît. Ouais. Quelques nouveaux.
Je m'appelle Monica Oscar, je suis propriétaire du Café Oscar depuis 32 ans maintenant. On a créé celui avec mon papa, qui s'appelle Oscar, suite à une histoire familiale, parce qu'il avait un club d'artistes à Varsovie. Ensuite, avec des parpaings et des planches, on a construit une espèce de fausse scène. On s'est retrouvés à faire une programmation des one-man shows à l'époque. Et après, j'avais créé un plateau d'humoristes, parce que ça commençait à faire déjà des plateaux d'humoristes, qui s'appelait les Oscars du Rire. Voilà. Et qui plus tard s'est transformé à ce qu'on est aujourd'hui, Oscar Comedy Club. Tous les plateaux s'appellent Oscar Comedy Club.
Et ça a basculé quand, le fait que ça devienne un comedy club?
Ah bah ça devient un comedy club quand les gens nous ont commencé à faire du stand-up. Parce qu'à l'époque, on était considérés comme des cafés-théâtres plutôt. Et comme il n'y a plus du tout de cafés-théâtres d'époque, parce qu'ils sont tous fermés, je suis restée la seule. Donc du coup, je suis devenue le plus ancien comedy club de Paris. C'est aussi simple que ça.
Avec vous, et je vous demande de faire un maximum de bordel pour le suivant, qui s'appelle Salim. Un maximum, un maximum, un maximum.
Salut tout le monde. Alors moi c'est Salim, je suis arrivé de Tunisie il y a 7 ans pour mes études. J'ai découvert en France que je suis un blédard. Par applaudissement, qui voit ce que c'est un blédard? Tu t'appelles comment?
Mathias.
Mathias, c'est quoi un blédard? On t'écoute.
Quelqu'un qui vient du bled.
Voilà, c'est gentil ça. Parce que la dernière fois, il y avait un mec, il m'a dit, un blédard c'est un sans-papier. Waouh, exactement. Ouais. Mais vous savez, les sans-papiers, ils ont un rap, hein. Il y a plus de 5 millions de vues, vous connaissez? Bah venez, on le fait ensemble, il est trop cool en vrai. Vous allez dire pour tous. Et à un moment, je vais dire il y en a marre, vous remplacez par il y en a marre jusqu'à la fin. Tout ça en applaudissant. Donc pour tous, pour tous, pour tous. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre jusqu'à la fin. Ok, vous êtes chaud?
Ouais.
Vous me lâchez pas, hein?
Ouais.
Allez, on y va. Tout ça en applaudissant, allez. Les papiers!
Pour tous!
Pour qui?
Pour tous!
La liberté!
Pour tous!
L'égalité!
Pour
tous! La baïa!
Pour tous!
Ah bon? Ça a changé la France, hein? Allez, et y en a marre! Et y en a marre! Des déplacements! Des avocats! Reviens demain! Après-demain! Après, y'a rien! Des Arabes! Attention, hein. Bon, félicitations, vous êtes officiellement baptisé Blédard.
Ouais.
Bienvenue.
Un des ressorts de vos blagues, c'est aussi la frontière et la délimitation de qu'est-ce qui est raciste ou pas.
Ouais.
Ça revient souvent, ça.
Ouais. Et moi, sur scène, tout est raciste, sauf que ce que moi je dis. Si on doit résumer un peu.
Merwan Ben Lazar, humoriste.
Sur scène et tout. Mais parce que, est-ce que c'est pas le meilleur moment d'en rigoler dans une France où Pascal Praud nous explique qu'on peut plus rien dire? Est-ce que c'est pas lui faire un beau pied de nez, que lui dire ouais, grave, t'as raison, tout est raciste, regarde, tiens, la chance. Je crois que c'est moi qui dis les pires horreurs sur scène. Hier, je crois que Lucienne, je lui ai dit un truc un peu grave. Non, j'ai dit, je me rappelle de ce que j'ai dit. J'ai dit la frontière entre intégration et suceur, elle est très fine. C'est ça que j'ai dit. C'était marrant en vrai. Oui, c'est ça. C'était drôle. C'est drôle. Après, elle peut porter plainte et tout, hein, mais c'est drôle. Mais c'est peut-être rude. Mais quand je l'ai dit, je le pensais. Et en vrai, si on a rigolé à ce moment-là, c'est parce qu'on sait que c'est bienveillant et parce que en vrai, si on décompose le message, c'est sois toi-même. T'as des origines asiatiques, t'as pas besoin de t'appeler Lucienne pour qu'on te respecte et qu'on t'aime bien. Viens, prends ton vrai prénom asiatique et dis-nous ton vrai prénom asiatique et on t'appellera comme ça. Peut-être qu'on va mal le prononcer. Mais c'est ça en vrai le message que j'ai. Mais on va faire l'effort et machin et machin et machin. Mais je peux pas dire ça, c'est chiant. Il faut que je le dise de façon drôle. Et et souvent moi, drôlerie va avec la puissance de pincette. Ce sera le résumé du prêt du spectacle. Drôlerie sans pincette. Des fois, je surprends des gens du public. Ah, du coup, c'est calé sur moi. et dire des choses affreuses, quoi. Et ça choque plus personne dans la salle. Les gens rigolent. Je dis, vous êtes sérieux de rigoler à ça? Vous savez que si moi je dis ça, j'ai des problèmes, quoi. Et c'est marrant. Ouais, c'est marrant ce qui se passe dans la salle pendant le spectacle. Mais parce que moi, en voulant être libre de me rapprocher du stand-up de ces années-là, où on riait de non-dit, peut-être que du coup, ils disent, bah, si lui, il peut, peut-être nous aussi, on peut, quoi. Peut-être que la salle de stand-up, elle a, dans le rire et tout, ce côté exutoire du peuple. Peut-être aussi, hein. C'est ça. Là, c'est social, hein. Là, c'est, on parle de racisme, on parle d'élection, on parle de polygamie, on parle de normes du mariage, on parle de mes parents cousins, on parle de violence à l'école, on a parlé de violence à l'école hier, on a parlé de harcèlement scolaire, et, c'est des thèmes sociaux tabous de chez tabous, et on y arrive.
Quand vous êtes un blanc de la presse qui a voix au chapitre.
Adrien Desnouettes, critique.
Radio France. France, hein, quand même, Radio France, France Culture, la culture de la France. Quand vous êtes ça, et que vous allez vous plonger dans une salle où en fait vous devenez d'un coup en minorité parce qu'il n'y a que des Arabes, et qu'ils n'ont qu'une envie, c'est qu'on se foute de votre gueule à vous, je dirais que c'est très sain, c'est très salubre de vivre ça. Et ça, vous ne pouvez pas rester dans le pédiluve. Vous êtes obligé de plonger dans la piscine. Enfin, dans le grand bain d'ailleurs, c'est pas une piscine. Vous êtes obligé de plonger. Vous êtes obligé de plonger dans la mer, vous êtes obligé d'y aller, quoi. C'est vraiment une marée et démerdez-vous, quoi.
Comment tu t'appelles, frère? Jean-Charles. Et nous? Mais l'autre, c'est un salafiste à côté de toi! Jean-Charles!
Moustapha El Atrassi nique sa grand-mère, 2018.
JC! Oh, c'est JC, quoi. Il y a des échanges dans la salle et tout, c'est très chelou, frère. Vous pourrez jamais résumer ce spectacle. N'essayez pas, on l'a, n'essayez pas. Jean-Charles, merci mon ami. T'es tout seul? Ouais? Tu passes une bonne soirée? T'inquiète pas, ça va bien se passer. D'accord? Hein? Ça sera bon enfant. Vous dites souvent ça à l'égoïre. C'est bon enfant. Oh, c'est bon enfant. Oui, Toufik, des fois on t'appelle couscous. Mais c'est bon enfant. Oh là là, il est agressif lui, hein? Avec ses grands yeux noirs.
Quand on est tout puissant, on est en quelque sorte invulnérable à la moquerie.
Olivia Gazalet, philosophe.
Alors que quand on est dans une situation de fragilité, économique ou psychologique ou physique, une petite blague, soi-disant inoffensive, peut vous anéantir. On dit que le ridicule ne tue pas, mais dans certaines situations, il peut conduire au désespoir et au suicide. Je pense au cas de harcèlement à l'école, par exemple, qui peuvent conduire des gamins au suicide, et c'est de la moquerie. Et en fait, les gens qui sont les plus vulnérables sont les gens qui sont déjà stigmatisés. C'est-à-dire qu'ils souffrent déjà en société d'un préjudice lié à soit leur appartenance ethnique, soit leur physique, soit un handicap qui fait qu'ils sont déjà stigmatisés. Et le stigmate, je rappelle, le stigma, c'est la marque d'infamie marquée sur la peau des esclaves. Et une catégorie qui est déjà stigmatisée, je pense par exemple à l'humour, au comique, je préfère dire comique qu'humour, au comique sexiste, raciste, islamophobe, judéophobe, grossophobe, homophobe et tout ce que vous voulez, ces comiques de dégradation, quand ils ciblent des personnes ou des communautés qui sont stigmatisées, eh bien la blague va avoir tendance à conforter ces stéréotypes, à conforter les stigmates. Le rire est tout sauf anodin et insignifiant. Le rire a une portée politique importante et il peut être un rire de subversion, mais il peut être aussi un rire d'oppression, un rire de dégradation, un rire de dénigrement qui contribue à perpétuer des stéréotypes dégradants sur certaines communautés.
Je trouve que si tu mets pas ton prisme dans quelque chose, ben si tu te moques de certaines communautés, c'est pas marrant en fait. Enfin.
Amandine Lourdel, humoriste.
Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai vu un gars qui fait des blagues sur les gens transgenres. Et c'était les blagues un peu auxquelles n'importe qui penserait sur les gens transgenres. Tu vois, moi si je veux être un objet, ou j'ai acheté des bananes, puis en fait c'était des kiwis, je sais pas quoi, tu vois. Et les gens ils rigolaient un peu et je me suis dit. En fait, il met même pas son prisme à lui dedans. Il dit même pas, moi je suis paumé parce que moi je suis un boomer de 50 ans en fait. Ça pourrait marcher, ça pourrait être marrant. Si tu mets ton prisme à toi dans quelque chose. Mais si c'est juste te foutre de la gueule d'une communauté parce qu'elle est étrangère à toi et que tu ne la comprends pas, moi ça me fait pas marrer du tout en fait. Vraiment pas. Et il y a des mecs, tu vois, qui font plus des mecs que des meufs, je pense, qui font du stand-up et qui disent un peu des saloperies. Moi, j'aime bien les gens qui disent des saloperies. Je pense qu'on peut rire de plein de trucs et tout. Mais déjà, faut que les vannes, elles soient vraiment bonnes. Et si c'est juste dire des saloperies parce que c'est choquant de dire des saloperies et ça fait rire les gens quand tu les choques, ça me fait pas marrer du tout, quoi. Vraiment. Après, le monde, il a changé. Enfin, tu vois, les choses, elles ont changé. Il y a quand même des mouvances de pensée et tout. Dans les comédie clubs à Paris, enfin, je crois, hein, y a pas de blagues racistes. Il y a encore un peu des blagues misogynes, mais bon. Parce qu'ils sont un peu lents, tu vois, mais.
Il y a un humour misogyne, par exemple. Il y a un humour raciste qui est possible dans le stand-up. Tout dépend comment il est formulé. Tout dépend devant qui il est formulé. Hein, c'est la phrase de Desproges. On peut rire de tout, mais ça dépend de avec qui. Mais là, effectivement, tout dépend. Et surtout, si on fait une blague raciste, elle doit être à double détente. C'est-à-dire qu'on doit comprendre qu'au moment où le stand-upper fait la blague raciste, il se moque de notre propre racisme, en fait, et voire du sien propre. Il y a une sorte d'autodérision sur lui-même. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, ça devient une blague extrêmement déplaisante et qu'on peut considérer comme nul, en fait, parce que c'est plus drôle, c'est une attaque. Mais ça n'est possible que si on a compris qu'on était dans le registre du stand-up, ce registre très particulier du stand-up, c'est-à-dire le franchissement des tabous.
Non, le fait est que moi, je m'en prends plein la gueule sur les réseaux à cause de mon métier. En fait, avant d'être humoriste, je m'étais jamais fait insulter. Okay, enfin, sauf une fois, mais c'est moi qui avais demandé.
Christine Béraud. Humoriste.
J'attends que vous la compreniez. non, moi, c'est très difficile. Il y a une communauté, moi, sur les réseaux qui m'aime pas du tout. Ce sont les masculinistes. Vous connaissez les masculinistes ? Ouais, c'est les fachos misogynes. Et en fait, ils m'aiment pas parce que je suis une femme. Voilà. Et il y a un. Il y a un influenceur masculiniste qui a 300 000 followers sur YouTube. 300 000. Il a fait une vidéo de 52 minutes que sur moi. D'habitude, les gens applaudissent, mais c'est pas grave, c'est pas grave, humiliez-moi jusqu'au bout. Non, mais 52 minutes, vous imaginez ? Non, mais le temps qu'il a passé à écrire, à monter, à se filmer. Je sais qu'il a fait ça pour me nuire, mais moi, je me suis jamais sentie aussi aimée. Jamais un homme n'avait passé 52 minutes sur moi. Cette vidéo, pour moi, c'est pas une casserole, c'est ma sex tape, d'accord ? Bon, le truc, c'est que comme il avait 300 000 followers, après, j'ai vécu ce qu'on appelle une vague de cyberharcèlement. C'est pas agréable, mais ça met de l'ambiance dans une vie. Je vais vous dire, ouais, j'allais sur mes réseaux sociaux, toutes les 5 minutes, je me faisais traiter de pute. J'avais l'impression que mon Instagram avait Gilles de la Tourette. Et en fait, ce gars-là, c'est son fond de commerce. Il fait que des vidéos sur les femmes qu'il aime pas. Et je trouve ça triste. Et je pense que ce monsieur, si on lui envoie de l'amour, il va le recevoir. Parce qu'il en a besoin. Il s'appelait Stéphane. À trois, on va tous dire Stéphane, on t'aime. Ok, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Stéphane, on t'aime. Même si t'as une petite bite.
Moi, quand j'ai commencé à être humoriste, donc en 2007, dois-je le rappeler, je ne savais même pas ce que c'était que le féminisme. Je suis devenue féministe parce que mon métier était sexiste, en fait. Donc, c'est pour ça, au bout d'un moment, je me suis retrouvée à défendre sur scène tout ce qui me mettait en colère. Donc, je ne me suis jamais posé la question de comment je le définis. Juste, j'incorpore mes idées à mes sketchs, parce qu'encore une fois, sur scène, je me dis qu'est-ce qui m'énerve, qu'est-ce qui m'agace. Bah, ce qui m'agace, c'est oui, de me faire insulter à longueur de temps par les masculinistes. Je pense que ce soit le féminisme ou une autre cause, parce que là, c'est vrai qu'en ce moment, je parle beaucoup de féminisme, mais demain, ce sera peut-être autre chose. En fait, on rit aussi de ce qui nous met en colère, parce que c'est la thérapie ultime. Moi, quand je vous fais rire avec mon sketch sur les masculinistes, ça me fait oublier que j'ai vécu 5 vagues de cyberharcèlement en 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, oui, je sais bien qu'on monte pas sur scène pour faire une thérapie, mais c'est quand même l'aspect bonus, voilà.
C'était très masculin l'univers du stand-up quand tu as commencé, justement sur ces questions-là.
Ah là là, vous avez 2 heures ou comment ça se passe? Moi, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, je vais vous parler vraiment en 2007-2008. Moi, je me rappelle d'un tournage télé. Je balance, hein, c'était sur France 4, une émission qui s'appelait Plié en 4, où on m'a demandé de ne pas dire de gros mots parce que pour les filles, ça passait mal. Alors qu'on avait sur scène des gens qui étaient extrêmement grossiers. Je viens de là quand même. Hein. Je viens d'un monde où des vieux humoristes d'un certain âge, de l'âge de mon père, te donnaient rendez-vous chez eux pour t'aider à écrire tes textes. Et une fois que t'étais là, te faisaient des avances. Enfin, je l'ai vécu. Donc oui, le milieu du, pour te répondre, le milieu du stand-up, il est extrêmement sexiste. De moins en moins, j'avoue. Là, le petit MeToo, il nous a fait du bien. Mais oui, je viens du temps des cavernes. Hein. C'était très violent quand j'ai commencé. Ouais.
Moi, on m'a dit quand j'ai commencé que c'était un peu trash, machin, ou un peu cru. Et je bossais avec un mec à l'époque qui me disait « Ouais, les filles, vous parlez trop de cul, faut arrêter et tout. » Mais en fait, quand c'est fait correctement, c'est cool, je trouve. Enfin, y a encore des gens, il y a même des meufs, tu vois, dans le stand-up qui disent... Alors, pas des stand-upeuses, mais des meufs dans les organisations et tout, qui disent « Ouais, les filles, vous parlez que de vos mecs et de vos règles, machin. » Bah ouais, peut-être qu'on en parle beaucoup, mais parce que ça fait tellement partie de notre identité... Enfin, notre corps, il prend toute la place. Déjà, dans la société, il prend toute la place, notre corps. Parce qu'on est ou trop bien ou pas assez bien. Tu vois, toutes les injonctions autour du corps des femmes. Et dans notre vie, notre corps, il prend vachement de place, tu vois. Enfin, je veux dire, avoir nos règles, faire des bébés. On a tout le temps un pet de travers. Chez Pone, j'ai l'impression que notre corps, il est omniprésent pour nous. Du coup, bah forcément, on en parle, en fait. Et je pense pas que les meufs, elles fassent du trash gratos. C'est juste qu'il y a une porte qui s'est ouverte il y a pas très longtemps. Je pense que c'est Gardin qui a ouvert cette porte-là. Et du coup, on s'est dit, ah mais ouais, mais nous aussi, on veut parler de ça, en fait, parce que ça nous occupe énormément dans notre vie, notre corps, notre sexualité. Aimer les hommes ou des femmes, ça nous occupe quand même aussi beaucoup. Donc, on en parle, quoi.
Café Oscar, Comédie Club à Paris, novembre 2024.
Bonsoir. Les astres sont avec nous ce soir, mesdames et messieurs. Pour les cancers et les balances, nous sortons de 16 ans de karma. Il y a des cancers dans la salle. Oh, Bichette. En plus, j'avoue, t'as une tête de cancer, ma belle. Je sais, bon, ça va être libéré pour toi. Tu vas avoir de la chance dans ta vie.
Moi, je m'appelle Aria, j'ai 21 ans et là, je suis venue pour les auditions publiques. Donc, c'est la première fois que je vais jouer dans ce lieu. Ça me permet de tester mes blagues et jouer dans différents plateaux.
T'étais la seule femme ce soir au Café Oscar. Qu'est-ce que ça fait, ça ?
Bah, c'est un peu l'habitude, on va dire. J'ai pris l'habitude. Après, malheureusement, c'est vrai qu'on en parlait avec d'autres femmes humoristes qui sont dans le même cas. C'est rare de voir trois femmes humoristes dans un comedy club. On a plus tendance à voir 5-6 hommes et une femme dans l'eau, ou à la rigueur 2 si on a de la chance. Alors là, c'est vraiment un jour spécial, on va dire.
Ça fait longtemps que tu pratiques le stand-up ?
J'ai commencé à mes 14 ans jusqu'à mes 18 ans. J'étais la plus jeune à l'époque. Et après, j'avais arrêté pendant 2 ans. Et là, je reprends à mes 21 ans. Du coup, c'est depuis quelques mois. Donc, c'était un plaisir. J'aurais pas cru reprendre, mais c'est un peu comme une maladie, on va dire, le stand-up.
Non, mais moi, je l'ai vu comme un signe, ce truc. Parce que vous savez, moi, à chaque fois quand je rencontre un mec, c'est tout le temps le même schéma. Déjà, j'aime bien les hommes princesses. Je vais vous expliquer, les hommes. Hein? Toi, t'es trop dans le jugement, c'est quoi ton signe? Non, mais elle, je vois l'effet des expressions faciales et tout. Dis-moi, what is your sign?
Sagittaire.
Je dis rien, je me bagarre souvent avec des sagittaires. Tu m'as fait perdre le fil.
Désolée.
Oh, t'inquiète. Homme princesse, merci.
Tourner moi, en dérision, c'est toujours détruire quelque chose. Et donc, quel est le rapport à la dérision dans le stand-up? En fait, c'est un rapport qui est assez complexe. Parce qu'autant quand vous êtes sur la scène de café-théâtre et que vous êtes derrière un personnage, c'est hyper facile de tourner en dérision. Parce que c'est pas vous, en fait. Quand vous êtes sur une scène de stand-up, mine de rien, le pacte avec le spectateur, c'est que vous ne jouez plus un personnage. Même si tout le monde sait, il y a une petite clause entendue, qu'il est impossible d'être purement soi-même à 100% sur scène. Vous êtes en représentation. Mais quand même, vous êtes quand même censé être quelqu'un. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui tourne tout en dérision sauf vous-même, il y a tromperie sur la marchandise. Il y a une duperie. Donc je dirais qu'en fait, le but du stand-up, et c'est ce qui fait que, à mes yeux, moi, c'est ce que j'aime dans le stand-up, c'est quand en fait, la dérision se retourne d'abord ou finalement sur celui qui en est la voix, c'est-à-dire sur le comique. Il faut que le comique fasse preuve d'autodérision.
Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Thomas. Allez Thomas.
Bonjour. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Thomas, j'ai 38 ans. Wow, il n'y a aucune réaction, ça m'inquiète parce qu'en fait j'ai 24 ans. La première fois qu'on m'appelait monsieur, j'avais 8 ans. Quand je drague uniquement sur LinkedIn. Et la dernière fois, j'étais à une soirée organisée par mon frère qui a 20 ans. Et je rencontre une meuf et le courant passe plutôt bien. Et à un moment, elle finit par me dire « Mais vous allez rester encore longtemps ?» Du coup, je lui dis que ouais, il y a de l'alcool et qu'on va bien se marrer. À ça, elle me répond « Ah, mais vous êtes trop cool. J'ai l'impression que mon père soit comme vous. » Voilà, il y a ceux qui se font friendzoner, moi je me fais personner. Et j'ai pris ça en pleine tête, du coup j'ai cherché un moyen de paraître plus jeune. Donc je me suis inscrit sur l'application TikTok. Un bon moyen de percer sur TikTok, il suffit de prendre un domaine où vous êtes très fort et vous donner des petites techniques aux gens. Donc mon domaine d'expertise est tout trouvé. le chômage. Et je nomme mon compte chômeur professionnel et je fais une vidéo et la vidéo elle fait 1 million de vues. Et dans la vidéo je mentionne mon âge et je vais pour lire les commentaires de TikTok. Grossière erreur. Premier commentaire, 24 ans de prison. Deuxième commentaire, 24 ans hors taxe. Je reçois même des messages privés, quelqu'un m'envoie un message et me dit écoute moi j'ai vu la vidéo, j'ai lu les commentaires et je suis pas d'accord, je trouve que tu fais 24 ans. En année de chien.
Salut. Vous allez toujours bien? Oh, vous êtes trop chou, je vous adore déjà, vraiment. Je m'appelle Lou Trottignon, voilà, écoutez, il m'arrive un truc en ce moment. C'est que quand je suis de dos, on m'appelle madame, et quand je suis de face, on m'appelle monsieur.
Vous rigolez beaucoup de la communauté queer.
Ouais.
Et c'est intéressant parce qu'on a beaucoup dans l'imaginaire dominant, même des médias un peu traditionnels, une image très sérieuse de la communauté queer. Est-ce que c'est ça qu'il fallait défaire pour vous aussi?
Ouais, je pense. Je pense que, en fait, de manière générale, on ne peut pas se permettre de critiquer une partie de la population sans critiquer la partie de la population dont nous, on fait partie. Donc, bien sûr, je critique les normes de l'hétérosexualité, mais sans pointer du doigt les personnes hétéros, parce que ça, c'est autre chose. En fait, être hétéro, c'est une sexualité, c'est quelque chose qu'on choisit pas. Par contre, jouer le jeu des normes, ça, c'est... on peut le changer.
Je comprends que les gens soient perdus autour de la non-binarité. Hein. Ça fait très longtemps que ça existe, mais c'est maintenant qu'on en parle. Moi, pendant longtemps, j'étais perdue. Moi, quand j'étais petit, ou petite, je ne sais pas, mystère, tout en petitesse.
Le regard qu'ont les gens me fait beaucoup rire. Par exemple, quand je dis que je suis non-binaire, donc c'est-à-dire que je me reconnais pas tout à fait dans la définition de ce qu'est une femme, la définition de ce qu'est un homme. Souvent, les gens, ils entendent non-binaire, ils sont là, oh là là, non, pas encore, les woke, tout ça. Et, ou alors, ils sont stressés. Ils sont stressés parce qu'ils sont là, du coup, c'est il ou c'est elle. Et moi, je rigole de leur panique, parce qu'en vrai, je trouve ça trop drôle qu'ils paniquent. Je suis là, tout fonctionne. Ils paniquent quand même. Du coup, oui, bien sûr, je suis confrontée à ça tout le temps, mais c'est que du matériel pour des blagues, quoi.
J'ai vraiment écumé tout Internet pour trouver un modèle qui me ressemblait, et à un moment, j'ai trouvé. C'est le mérou. Vous n'avez pas l'air choqué par cette information. C'est un poisson. Au début de sa vie, il est femelle. À la moitié de sa vie, il devient mâle. Il peut même redevenir femelle. Quand j'ai vu ça, j'étais là, c'est trop moi.
Mais moi, en tant que personne trans, quand j'ai commencé à regarder de l'art ou des films, à chaque fois, c'est dans la souffrance, la tristesse, la mort. Enfin, ça n'a pas l'air d'être super fun d'être trans. Et en fait, je me suis rendu compte que si, c'est drôle d'être trans. On est drôle, on est comme tout le monde. Enfin, il y a des trucs absurdes qu'on fait qui sont hilarants. C'est drôle la réaction des gens et moi j'ai voulu montrer ça, je veux vraiment que mon spectacle ce soit feel good, c'est-à-dire que les gens ils en sortent comme après un bon film où ils ont grave rigolé, ils ont eu des émotions mais ils ont aussi grave rigolé, et pour dire que la transition c'est joyeux comme mon spectacle. Ce qui est difficile c'est la transphobie, c'est pas la transition quoi.
Oui, et c'est un moyen pour vous aussi d'introduire du trouble. Il y a un moment dans le spectacle où vous dites, mais qui est heureux dans son corps, en fait?
Mais oui, qui est né dans le bon corps? Parce qu'on dit souvent aux personnes trans, vous n'êtes pas né dans le bon corps, mais qui? Genre le corps que tu as reçu à la naissance, vraiment, c'est celui que tu voulais, pour de vrai. Et du coup, pour dire que c'est assez universel, je pense que vraiment, ce que ressentent les personnes trans, c'est peut-être exacerbé par le fait d'être trans, mais le fait de ne pas se sentir tout à fait bien dans son corps, le fait de ne pas être sûr de correspondre tout à fait aux normes, ça, c'est des trucs, à mon avis, que tout le monde ressent. On a tous un genre, donc à partir de là, on se pose les mêmes questions.
Ça doit rester au moment où c'est joué, dans l'espace où c'est joué. C'est pour ça que j'appelle ça un sanctuaire. Il y a vraiment une église de la comédie. J'appelle ça une église de la comédie. Si on sort de ça, si on ramène la blague en dehors de ce sanctuaire-là, elle devient incompréhensible. Elle peut devenir odieuse à ce moment-là. Et c'est ce qui est arrivé quand on a commencé avec les premiers téléphones portables et que les gens filmaient à l'intérieur des comédie clubs et mettaient ça ensuite sur Internet et mettaient le bout de sketch sur Internet. Et on ne comprenait pas l'avant-sketch, on ne comprenait pas l'après-sketch, on ne comprenait pas comment, dans quel développement venait le sketch. Et du coup, on voyait juste un sketch odieux, une blague odieuse, et qui, évidemment, se faisait prendre une shitstorm sur Internet. Alors que si on avait suivi le développement, on aurait compris qu'il y avait de l'autodérision dans cette blague-là. D'où, aujourd'hui, l'interdiction des téléphones portables dans les comedy clubs. Ça doit rester, la scène se vit au moment où on y est.
Il y a deux exemples qui seraient intéressants. D'abord, il y a Valérie Lemercier. Valérie Lemercier, elle a toujours refusé la captation de ses spectacles. parce qu'elle explique que sur scène, elle dit « je peux dire des choses trash, même des choses atroces, seulement je l'ai dit au bout d'un certain temps, et après avoir testé l'ambiance de ma salle, après avoir senti, et moi c'est ce que j'appelle le pacte humoristique, qui est un pacte tacite, c'est-à-dire tester, ah ça, ça passe, ou là ils ont été un peu, bon je vais redresser, voilà, ou alors au contraire, ils rigolent, je peux continuer à y aller. Donc elle évalue cette atmosphère de la salle, et elle dit, je ne veux surtout pas que mes sketchs se retrouvent saucissonnés à 9h du matin sur Rire et Chanson, parce que là, c'est trop abrupt. Et donc, elle dit, les choses trash que je dis au bout d'une heure, j'ai pas envie qu'on les entende au petit déjeuner sorti de leur contexte. Donc ça, c'est important. Il y a un autre exemple que je trouve très parlant, c'est celui de Desproges et de son fameux sketch, dit sketch sur les juifs, mais qui est en fait un sketch sur les antisémites.
Qu'est-ce qui se passe? Tu me dis que... Mais non, je vais te mourir. Hein? Bon, non. Mais enfin, quand même, c'est bon. Je veux quand même voir. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi.
Et ensuite, après, c'est affreux ce qu'il dit sur les, voilà, sur les juifs, la déportation, etc. Et c'est complètement du second degré. Comment on sait que c'est du second degré? Parce que il dit qu'il n'entame ce sketch qu'au bout d'une heure de spectacle, exactement comme Valérie Lemercier, une heure qui lui a servi à installer ce climat d'innocuité et une heure qui lui a permis de convaincre ses auditeurs qu'il ne va pas se moquer des juifs, mais qu'il va se moquer de l'antisémite qui se moque des juifs. Donc en fait, une heure qui lui a permis d'établir une contre-posture en fait, et qui lui a permis d'assurer au public qu'il allait s'exprimer au second degré. Et ça aussi, c'est de l'art, parce que c'est très compliqué. Et quand ce sketch, en revanche, a été sorti de son contexte précisément pour être placardé sur le site d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation, sans aucune précaution oratoire. Ben là, c'est de l'antisémitisme, parce que là, le sketch était donné à entendre pour ce qu'il était au premier degré, c'est-à-dire un énoncé purement antisémite. Mais ce qui est important, c'est de distinguer... l'humour, c'est toujours une affaire d'énonciation et pas d'énoncé. Ça veut dire que le même énoncé, dans un contexte ou dans un autre, dit par quelqu'un ou par quelqu'un d'autre, en présence de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre, n'a pas le même sens. Donc en fait, c'est l'énonciation qui compte.
En fait, c'est pas tant peut-on rire de tout que comment rire de tout.
Exactement. Exactement, c'est pour ça que je dis c'est un art, parce que c'est pas qu'est-ce que peindre un arbre, l'art c'est comment on va le peindre, parce que je crois qu'on est tous capables de dessiner un arbre, mais pas toujours avec art. Mais c'est exactement pareil pour l'humour.
On oublie de dire que le rire est une forme artistique, et donc que la première grille de lecture applicable est celle du jugement esthétique, ce qui ne suspend pas le jugement moral, attention, hein. Chaque gag, chaque vanne, chaque sketch contient sa morale, exactement comme un film ou une façon de représenter, de mettre en scène les choses dans un film va contenir un point de vue moral, celui de l'auteur, celui du réalisateur, celui de tous ceux qui ont concouru à faire exister ce film. Un gag, c'est exactement pareil, une blague, c'est exactement pareil. Il y a des blagues nauséabondes qu'on peut juger d'un point de vue esthétique, c'était drôle, c'était pas drôle, mais qu'on peut aussi juger d'un point de vue moral, mais d'abord esthétique. Parce que si vous appliquez d'abord une grille de lecture, je sais pas moi, politique ou morale, sur un gag, en fait... vous dépouillez complètement la finalité du travail de l'artiste, qui a été de faire rire. Prenons par exemple quelque chose qui a défrayé la chronique l'année dernière. La blague de Guillaume Meurice. D'accord ? La blague de Guillaume Meurice, on a entendu « Oui, bah d'abord, c'est pas drôle et en plus, c'est antisémite. » Et puis très très vite, on a entendu « C'est antisémite, donc c'est pas bien. C'est antisémite, donc c'est pas bien. C'est antisémite, donc c'est pas bien. » Je suis d'accord, quelque chose d'antisémite, c'est quelque chose de pas bien. C'est pas, je veux dire, au-delà même du fait qu'on est illégal dès lors qu'on profère des propos antisémites, je ne suis pas pour l'antisémitisme et toute forme d'intolérance, quelle qu'elle soit. Néanmoins, on a très très vite oublié que Guillaume Meurice n'était pas là pour informer ou donner son opinion. Il était là pour déformer l'opinion en humoriste. Moi, la seule critique que je trouvais légitime au moment de la blague, c'était « Est-ce que c'est drôle ? Est-ce que c'est marrant ?»
Très bien, permettez-moi quand même d'être opiniâtre et d'aller un peu plus avant. Mais peut-on rire de tout aujourd'hui?
Ah, c'est-à-dire, oui, bien sûr, le rire dit populaire, oh, qui verse irrémédiablement dans la vulgarité.
Oui, mais est-il besoin d'en parler, Jean?
Ah, en tant qu'automologiste du rire, il le faut.
À chaque époque, quasiment, on entend le même refrain. Oh, on riait plus autrefois, on s'est plus marré, etc. Et au 19e siècle, c'était vraiment un cliché omniprésent. On le voit chez Balzac, chez Zola. Ah, la vieille gaieté française, nous n'osons plus rien. Bon, donc déjà, il faut rappeler que chaque époque est toujours nostalgique de la précédente. Bon, le deuxième point, c'est que quand on dit « on peut plus rien dire », il faut savoir de quoi on parle. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de la censure politique? Est-ce qu'on parle de la censure économico-médiatique? Ou est-ce qu'on parle de l'intolérance sociale? Alors, très rapidement, au niveau juridique, en France, c'est faux de dire qu'on ne peut plus rien dire. Les tribunaux, en France, ont une conception quand même très libérale de la liberté d'expression dès qu'il s'agit de comiques. Je donne un exemple célèbre. Guy Bedos a traité Nadine Morano de conne dans un spectacle. Elle lui a fait un procès pour diffamation. Lui s'est défendu en disant, par exemple, « Mais ce n'est pas de la diffamation, c'est de l'information. » Et les tribunaux lui ont donné raison, non pas pour cette raison-là, mais parce qu'ils ont considéré que ça faisait partie de son registre classique et qu'il n'y avait pas d'intention de lui nuire personnellement. Donc, relax. Donc, vous voyez, on peut aller très loin, regarder la satire politique sur certaines antennes et surtout sur scène. Je pense au spectacle de Walidia que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment de la satire qui va loin. Donc non, c'est pas vrai qu'on ne peut plus rien dire au niveau juridique. En revanche, il y a une censure réelle, bien réelle, et qui est la censure économico-médiatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux et celles qui ont le pouvoir d'interdire, de suspendre, de licencier, d'interrompre la diffusion de quelque chose, etc., ce sont ceux qui dirigent. Par exemple, la censure des Guignols sur Canal+, typiquement, bon, ben voilà, ça ne plaît pas à Vincent Bolloré, qui a petit à petit fait disparaître ce programme parce qu'il le jugeait certainement trop corrosif à l'égard des dirigeants politiques, enfin surtout à l'égard de la droite et de l'extrême droite.
Voilà, je suis maintenant avec Vincent Bolloré, nouveau patron du groupe Vivendi et donc de Canal+. Monsieur Bolloré, ce matin sur France Inter, vous avez dit que parfois Canal+ était un peu trop dans la dérision et peut-être qu'il devait y prêter attention, une remarque qui n'est pas passée inaperçue.
Oui, c'est vrai, et je le redis pour Canal, se moquer de soi-même, c'est bien, se moquer des autres, c'est moins bien.
S'il n'y a pas de choc, s'il n'y a pas d'émotion, par exemple, si Sébastien Thoen se fait virer de Canal par Vincent Bolloré pour une vanne, une parodie sur Winamax, personne s'en offusque. Si les Guignols sont déprogrammés, aucun article dans la presse. C'est quand même de la satire grand public qui existait et qui n'a pas été remplacée, faut quand même le rappeler. Hein. Quand on censure le rire, la plupart du temps, on ne sait pas le défendre. Charlie Hebdo, c'est pas le rire en fait qu'on a protégé. Charlie Hebdo, c'est son émotion, son choc qui a suscité une réaction populaire. Les gens sont sortis dans la rue parce qu'ils ont été choqués par la barbarie de ce qui s'était passé. Légitimement, hein, on a le droit d'être choqué et de le dire. Mais ils n'ont pas défendu le rire. Il y avait d'ailleurs un vide de réflexion à la suite de Charlie Hebdo sur qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires de liberté de ton, liberté de caricature, liberté d'expression. Et c'est un peu pour ça que, ben voilà, des livres comme le mien, des réflexions comme celle de mon confrère Guillaume Aurignac sur le stand-up arrivent 5-10 ans après. Mais oui, c'est vrai qu'il y avait quand même un énorme vide réflexif autour de ça. Attendez, pourquoi on a laissé ce chantier-là en jachère?
Attendez, par contre, tout de suite, on va mettre les choses au point. Il ne faut pas couper la parole. Non, parce que c'est insupportable. Hein, je veux bien qu'on débatte, mais non, mais vous respectez les gens. On vous connaît. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Vous jouez avec la peur des gens.
À l'origine, et si on peut remonter au XVIIe siècle, hein, à Spinoza notamment, la liberté d'expression, c'était la revendication pour les dominés de pouvoir critiquer les dominants, à commencer par l'Église et l'État. Donc c'était la possibilité de pouvoir énoncer des opinions subversives. C'était ça la liberté d'expression. Mais au fil du temps, comme c'est devenu totalement autorisé dans la démocratie d'énoncer des vérités subversives, eh bien, on a vu au fil du temps que ce concept est récupéré, au contraire, aujourd'hui, par l'extrême droite, et ça consiste à dire, mais nous, si on a envie de continuer à faire des blagues sur les femmes, sur les noirs, sur les arabes, eh ben, on a le droit, parce que c'est notre liberté d'expression.
En fait, le problème, c'est qu'on utilise trop le mot nazi, parce qu'on a perdu nos repères en termes d'extrême droite. C'est devenu un concept beaucoup trop flou, l'extrême droite. Avant, l'extrême droite, c'était bien. Avant, non, mais c'est, non, mais, je veux pas faire le vieux con, mais ils étaient négationnistes, racistes, colonialistes, on était bien, quoi. Franchement, c'était un peu spectaculaire, on était contents. Aujourd'hui, je sais pas, c'est devenu mou, quoi. Ils sont là, ouais, non, mais nous, on n'est pas racistes. Et bah, casse-toi, en fait. Qu'est-ce que tu fais là, franchement? Ça sert à quoi d'être d'extrême droite si t'es pas raciste? Eh, je comprends pas le concept de RN sans le racisme. T'es juste un parti de plus? On en a plein! On a déjà plein de partis! Pourquoi t'es là?
C'est devenu un concept fourre-tout. On sait plus trop bien ce que ça veut dire. Qui le revendique et à quelle fin idéologique? Pour moi, la liberté d'expression, elle doit être revendiquée comme voilà, on doit pouvoir critiquer le pouvoir et on doit pouvoir critiquer tous les pouvoirs.
Romain, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Je travaille chez YouTube.
C'est pas vrai! Écoute, sois le bienvenu, mon Roro. T'hésites pas à mettre en tendance la vidéo montreux Merwan Ben Lazare, d'accord? T'essaies de me foutre ça en tendance dès demain, mon Romain? Et toi, tu t'appelles comment, pardon?
Oriane.
Oriane. Romain et Oriane, la vérité... Ça va grave bien ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, non, on dirait un podcast. Tu vois, Romain et Oriane. Non! On dirait les marques de cookies bio. Si! Tiens, oh, moi, le sucre, bah, c'est des Romain et Oriane. Oh, ben, seul, alors... Oh là là, les boulangeries bobo chez Romain et Oriane. Et donc... Oriane, toi, tu fais quoi dans la vie?
Je suis un site.
Et ben voilà, ouais, très peu d'oseille. Et donc alors? Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ma femme aussi, ma femme, elle est prof. La vérité, j'ai l'impression d'être dans l'humanitaire tous les jours. Vraiment, c'est génial.
Pierre, il y avait Steve, qui était contrôleur de gestion.
Ouais.
Et vous êtes rentré dans un truc où Steve, vous le détestez.
Ouais, et après.
Et moi, je me suis mis à le détester aussi.
Ouais. Non, mais parce que j'ai jamais dit je te déteste, Steve. J'ai dit on t'aime pas, quoi. J'ai dit un truc comme ça. Et puis après, il y a Lucienne qui m'avait rien fait aussi. Et au final, je lui ai dit tout va bien, Steve. Maintenant, c'est Lucienne qu'on déteste. Et j'ai pas décidé qu'on détesterait Steve avant de lui parler. Il m'a répondu d'une façon. Et j'ai dit, ok, tu m'as donné une excuse pour qu'on te déteste. Et du coup, ce sera toi. Mais si Steve avait été adorable, ça aurait été le mec adorable de la soirée. Et je sais plus, il y a quelques jours, il y avait un gars qui était en premier date. Je l'ai remarqué, en fait, il ne riait pas, il regardait pas le spectacle. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, est-ce que ça va? Parce que j'ai déjà eu des malaises vagales sur scène, dans la salle et tout, ça m'est déjà arrivé. Donc je sais gérer la situation. Je lui demande juste si ça va. Et il me dit, ouais, ça va. Et sa copine, qui était pas encore sa copine, quoi, rigolait fort et tout. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est, vous êtes un couple et tout. Il dit, c'est la première fois qu'on se voit. Et j'ai compris. Et du coup, toute la salle, notre but, c'était plus de regarder un spectacle, c'était de faire en sorte que ce soit le spectacle de sa vie pour le gars qui s'appelait Sofiane. Il fallait que Sofiane passe un super date avec sa meuf et tout, et on avait un peu cette mission ensemble ce soir-là. C'était le même spectacle, mais le décor était différent, si tu veux.
Oui, il y avait Olivier qui construisait des centrales nucléaires aussi. Ouais. Il était incroyable.
Ouais, Olivier construisait des centrales nucléaires. Il était la seule parce que sa femme était à La Réunion. Il y avait Khaled qui était marié, costume genre gris aluminium, tout seul. Tout seul aussi, et beaucoup de jeunes couples. Il y avait Fabrice, je crois, hier. Fabrice, c'était ça, Fabrice.
Un gars. Fabrice, ouais.
Oui, il y avait Fabrice, qui était juste un gars qui parlait de façon claire et froide. Et je lui ai dit un truc genre, là, soit on se bat, soit on se galoche. Et du coup, ça a cassé. J'ai senti que dans la façon dont il me répondait, les gens n'étaient pas prêts, il y avait une espèce de tension et tout. Et j'ai dit, soit on est dans un jeu de séduction, soit vraiment il va y avoir bagarre. Mais c'était ça le truc, à peu près. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas préparé à l'avance et c'est pas partie intégrante du spectacle. Je pourrais faire le spectacle sans Fabrice, Steve, etc., sans avoir à leur parler, mais ça m'amuse. C'est vraiment pour ça que je le fais, juste parce que ça m'amuse. Comme un peintre qui dessine la savane et il dit « Ah, je mettrais bien un oiseau là ». Avec l'oiseau ou pas, c'est la même peinture, mais ça l'a amusé de dessiner l'oiseau.
Oui, c'est ça, et ça fait que pendant la soirée, on devient une espèce de micro-société, quoi.
Oui, c'est ça, on était une micro-société destructrice et harceleuse, on détestait Steve et Lucienne, mais l'autre jour, on était une micro-société ultra bienveillante qui avait pour objectif de faire en sorte que Sofiane passe un super date et se détende et que, voilà, bref. Un couple naisse et une belle famille de ce spectacle. Il y a déjà eu d'ailleurs, en vrai, j'ai déjà eu des premiers dates, des gens genre photo de mariage, salut, on s'est rencontré à ton spectacle.
Charleville-Mézières, il pleuvait, il neigeait, c'était en plein forêt, personne n'est venu. J'ai dit, mais qui m'a programmé ici, tu vois?
Joss Houben, comédien et pédagogue.
Ils étaient 40 dans une salle de 1500 places. Et je dis, ça va pas aller du tout. Donc j'ai demandé à la direction, est-ce que vous avez une salle de conférence, hein? Ils avaient un lieu, on a poussé les tables, je les ai mis contre le mur, j'ai mis juste une lampe. Et il faut créer un événement. Et quelque part, pour eux et pour moi, c'était inoubliable. Après, c'est ça, pour citer Peter Brook, les meilleurs moments de théâtre, ce ne sont pas nécessairement là où tout est prévu. Ma responsabilité, c'est de que ces gens passent une bonne heure en riant. C'est ça ma responsabilité. Ils étaient tout proches de l'un l'autre avec leur anorak encore et moi, avec des lampes TL et tout. Et ben, j'avais juste un projo sur moi et je l'ai fait comme ça. Il y a toujours dans le rire ensemble une espèce de conspiration, une décision, une complicité. On va faire ça ensemble. Et surtout, parlons de nouveau du public, il faut que ce moment où le public décide tous en même temps d'entrer dans la conspiration, du rire. Et dans le spectacle aussi, j'arrive à ce point au plus vite possible que tout le monde dit « Oh, c'est bon, on est bien, ça va bien se passer ». On rit en sécurité pour après ouvrir une porte où on est moins en sécurité, mais nous ne sommes pas seuls.
C'est ça, on est plusieurs.
C'est ça. C'est la solitude qui est le plus flippant ou le plus inquiétant. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes tous un peu déboussolés et ça fait du bien, je ne sais pas.
Moi, je suis contente parce que dans ma salle, quand même, il y a des gens différents et tout, mais je connais des gens, vraiment, c'est... Dans leur salle, il n'y a vraiment que des gens qui leur ressemblent beaucoup, beaucoup. C'est à la fois cool et à la fois dommage, je trouve. Je sais pas trop. C'est bien d'ouvrir un peu le... Tu vois, moi, quand j'ai commencé, le gars qui j'ai commencé, Cybèle, il m'a envoyé jouer partout. Genre, vraiment, j'ai fait des tas de... Et tout le monde se foutait de ma gueule dans les comedy clubs à Paris. Les gens, ils me disaient « Ah, bah, t'es pas à Trifouille les Oies, t'es le festival ?» Maintenant, je leur dis « Tiens, niquez vos mères. » Et en fait, de s'habituer à jouer devant des publics différents... C'est cool aussi. Je pense que ça, dans la construction du spectacle, ça m'a aidé. Je pense que le spectacle, il n'aurait pas été le même si je l'avais travaillé que dans des comédie clubs à Paris. Et je suis contente d'avoir ouvert le champ quand même.
Bonsoir.
Ça va?
Bonsoir tout le monde. Ça va les jeunes? Alors, vous êtes en forme?
Vincent Dubois et Jean-Christian Fraissinet, alias les Baudins.
Tant mieux pour vous, parce que je vous garantis que vous m'y êtes en forme, parce que ça coûte moins cher de rester en vie que de mourir. Hein.
Oh bah attends, ah oui. Non, mais attends, on est pas venu là pour parler de ça. Tu vas plomber l'ambiance d'entrée, toi.
Mais non, il n'y a pas de langue de bois ici.
Bah non, hein?
Non, alors, pour tout vous dire, c'est-à-dire que je suis en train de faire des devis pour mes funérailles.
Ouais, c'est mis ça en tête.
Faut prévoir le coup. Hein.
Ah ouais, non,
et puis alors, je suis passé chez les pompes funèbres juste avant, là. Ouais. Oh, les fumiers! Oh, les bandits qu'il y a là-dedans!
Incroyable!
Ils en font un pognon sur la mort des gens, mes pauvres enfants. 8000 euros le cercueil.
8000 euros.
La vache, ça fait cher l'entrée en boîte, hein.
Tu m'étonnes, ouais.
Et même pas une conso gratuite, les fumiers.
Ah ouais, non, puis, incroyable. C'est vrai que c'est pas donné. Moi, franchement, à ce prix-là, j'aime autant me faire inséminer, moi.
Incinéré, tête de buse.
Nous, voilà. On a eu la même enfance avec Jean-Christian. Une enfance, justement, à la campagne. Jean-Christian, dans le Berry, et moi, en Touraine. On n'est pas fils d'agriculteurs, ni l'un ni l'autre, mais on a vécu dans des petits villages, en campagne. Et on a rencontré des Baudins quand on était enfant. Et ça nous a nourris de l'humanité et du bon sens de ces gens-là. Et voilà, ça doit expliquer ça, le fait que les gens se marrent beaucoup, que notre spectacle, ça c'est une de nos plus grandes fiertés, c'est que c'est multigénérationnel. En général, nous on s'en aperçoit avec nos collègues humoristes, c'est souvent générationnel l'humour. Et nous on a de la chance, c'est un peu comme au cirque, quand on va voir les Baudins, il y a 3-4 générations, il y a des petits gamins qui se marrent beaucoup de voir le fils Baudin se prendre des claques, et puis des anciens à qui ça rappelle quelque chose. Donc ça aussi, c'est une des raisons du succès, c'est que toutes les générations y trouvent leur compte, et puis ils se marrent, mais on est un peu des ambassadeurs aussi des gens avec ce spectacle. C'est devenu un peu notre marque de fabrique, parce que on essaie d'injecter de l'actualité dans nos spectacles aussi. Voilà, les Baudins, ils regardent le journal et puis la mariée en général a la langue bien pendue, quoi, sur plein de choses.
On dit souvent qu'on est un peu le public nous le dit aussi, vous êtes un peu l'ambassadeur des petites gens. C'est-à-dire que particulièrement la mariée, parce que c'est elle qui a là-dedans la dent assez acérée, aiguisée, et là un point de vue sur le monde, quoi, sur donc elle a un avis sur tout, et le fait que ça passe par son prisme à elle, par de l'authenticité, de la verve, etc., beaucoup de gens se reconnaissent. Beaucoup de gens se reconnaissent, effectivement.
C'est sûr que je dirais pas la moitié de ce que Maria peut dire, hein, c'est clair et net. Hein. C'est sûr que l'âge, c'est un gros avantage. Alors, on le voit souvent dans nos vies, les uns et les autres, on traverse la vie souvent avec un masque, hein, parce qu'on a le souci du regard des autres. Ce masque-là, les enfants l'ont pas encore et les anciens l'ont quitté. Et tout d'un coup, là, on peut dire des choses un peu brutes de décoffrage, mais c'est évidemment intéressant d'avoir ce personnage-là qui peut tout se permettre.
Mais vous l'envisagez, oui, vraiment dans l'écriture comme un espace de liberté.
Ah oui, Maria, nous, il faut pas qu'on trahisse nos personnages. Maria, on peut la trahir si, par exemple, elle devient tiède. Tout d'un coup. Pour arranger quelqu'un, oui, peut-être. Elle n'est pas comme ça, Maria. C'est là qu'on peut la trahir. Mais après, on peut aller très très loin. On peut pratiquement tout lui faire dire. D'ailleurs, le public maintenant, à un moment, nos personnages, ils nous échappent. Ça devient des entités à part entière. Et le public ne nous pardonnerait pas si tout d'un coup, Maria devenait frileuse. Hein, ça, c'est sûr.
Moi, je voulais en venir à cette démocratie directe. Il me reste une minute, c'est bon, on fait ça, ouais. Parce qu'en fait, en Suisse, on a le droit de vote d'initiative populaire depuis 60 ans, et je voulais juste vous parler de ce qui s'est passé. Donc, c'est juste des initiatives populaires et le résultat en Suisse. Ça vous dit ?
Oui !
Excellent ! 1960, initiative populaire pour le droit au logement et le développement de la protection de la famille. Non. À 75%. Rien à foutre de la famille. 1963, initiative en Suisse pour lutter contre l'alcoolisme. Non ! C'est très bien l'alcoolisme ! Après, voilà, les années 70, c'est le droit de vote. On donne donc initiative pour le droit à l'avortement. Non, évidemment. Après, on a repris les bonnes habitudes. En 1993, initiative pour une jeunesse sans drogue. Non. En 1999-2000, on est les psychopathes. Tout est vrai, je vous jure, pour des droits égaux pour les personnes handicapées. Non. Initiative contre les mauvais traitements envers les animaux. Non. Protection face à la violence des armes. Non. Protection contre le tabagisme passif. Non. 6 semaines de vacances pour tous. Mais non. On est des malades mentaux. 2011, mesdames et messieurs, initiative pour que les pédophiles ne travaillent plus. Avec des enfants.
Non.
Eh ben non.
Oui. Mais avec 36% de non. Ça veut quand même dire qu'il y a un tiers de la population qui a dit oh, ça va. C'est pas parce qu'il a violé... qui ne peut pas travailler dans une crèche. Voilà, je vous souhaite une bonne démocratie.
C'était leur betterave, s'il vous plaît. Merci pour ce cours de démocratie. Ça fait du bien qu'il ait dépassé les frontières pour nous annoncer ça. Magnifique. Leur betterave qui n'a pas de spectacle en France.
Donc l'humour de tradition française sur scène a vraiment à voir dans son identité avec, je dirais, la modernité politique française, qui est la naissance douloureuse et pleine de chapitres compliqués, mais de la démocratie. C'est la naissance de la démocratie. Il faut vraiment bien comprendre que quelque chose de notre identité humoristique remonte à cet événement-là où c'était très violent, mais ça riait beaucoup aussi. Alors moi, ce qui m'intéresse chez Gavroche, c'est la symbolique en fait de Gavroche. Gavroche, c'est quoi comme symbolique ? C'est l'insolence, c'est-à-dire une forme d'insolence qui ressurgit dans les barricades de 1832, mais qui, dans le roman des Misérables, est en fait une espèce de rappel de ce qu'a été le premier très très grand événement historique d'insolence français, qui est 1789. En fait, Gavroche, dans moi, ce que j'aime bien, c'est que aux yeux de Victor Hugo, il incarne ce plaisir très français de désobéir. Et comment, quelle forme ça prend chez Gavroche, c'est pour ça que je l'utilise pour parler d'humour et de tradition humoristique française, c'est que la forme que ça prend chez Gavroche, c'est le chambrage. C'est-à-dire littéralement la mise à l'épreuve de la maturité émotionnelle de l'autre par des vannes. Il lui met cet argot dans la bouche parce qu'en fait il lui met une langue qui quelque part désobéit à la langue bourgeoise, désobéit au monde bourgeois, désobéit au rappel à l'ordre.
L'irrévérence et la satire, moi je croyais que c'était pour tous les artistes. Je suis l'enfant du peuple qui fait la grimace à l'état dès qu'il a le dos tourné. C'est maître Victor Hugo qui disait qu'être contesté c'est être constaté. Alors j'ai porté mes couilles en ayant toujours dit ce que je pense. Je préfère regretter mes discours plutôt que de regretter mes silences. C'est ni de la faute à Voltaire, ni de la faute à Rousseau. C'est peut-être la faute à un tel, ou peut-être la faute à un autre. C'est ni de la faute à Voltaire, ni de la faute à Rousseau. Mais c'est jamais pour nos frères qu'on sépare l'œuvre de l'homme.
Et Gavroche, c'est quoi? C'est évidemment une mise à mort. Mais pourquoi il est mis à mort? C'est pas simplement parce qu'il est pas là où il devrait être, c'est parce qu'il nargue les soldats de la garde royale. C'est-à-dire qu'il nargue le bras armé de la monarchie à ce moment-là, contre laquelle se soulève le peuple. Et donc, quelque part, moi, ce que j'aime bien dans la symbolique, c'est que Gavroche, par sa langue, par son attitude, par son insolence, c'est en fait une présence symboliquement populaire. Et c'est là, c'est à cette origine-là, que j'ai envie de faire remonter la tradition du rire français. Et la barricade et les balles, ça fait aussi du public. Et le public, c'est la possibilité, quelque part, de donner sa traduction symbolique sur la scène, en fait, de manière se donner en spectacle, c'est-à-dire être en représentation. Et donc, être en représentation, dédoubler, quelque part, la Révolution de sa traduction spectaculaire. Gavroche, c'est le spectacle de la Révolution puni par ceux qui sont du côté de la barricade, qui n'ont pas intérêt à ce que Gavroche, quelque part, désobéisse, à ce que Gavroche remette en cause la légitimité de l'État et de ceux qui sont les tenants de l'ordre.
Ni de la faute à Voltaire, ni de la faute à Rousseau. C'est peut-être la faute à un tel, ou peut-être la faute à un autre. C'est ni de la faute à Voltaire, ni de la faute à Rousseau. Mais c'est jamais pour nos frères, on sépare l'œuvre de l'homme.
Ce qui est jouissif là-dedans, c'est la ridiculisation des puissants, c'est la désacralisation. C'est-à-dire que, en fait, en général, hein, les puissants oppriment, ou en tout cas dominent le peuple, sont dans une posture de toute puissance sur le peuple. Et donc, en fait, nous, on n'a pas tellement de pouvoir, sauf de se moquer d'eux, donc de les désacraliser, de les ridiculiser. Et ça, ça nous offre une jouissance parce que c'est notre seul pouvoir, en fait. On a un pouvoir, c'est mettre un bulletin dans l'urne. Et puis, entre-temps, on n'a pas d'autre pouvoir que se marrer à leurs dépens. Donc, c'est une revanche et c'est jouissif pour nous et c'est une mesure de salut public parce que si on n'avait pas le droit de rire d'eux, et je pense que dans les sociétés où on n'a pas le droit de rire des dirigeants, je pense que leur oppression est encore plus difficile à supporter. Nous, au moins, on a ça, on a le droit d'en rire.
Merci à Certes Mathurin, Mohamed El-Khatib, Lou Trotignon, Jossou Ben, Guillaume Aurignac, Adrien Desnouettes, Amandine Lourdel, Christine Béroux, Merwan Ben Lazar, Olivia Gazalé, Vincent Dubois et Jean-Christian Fraissinet. Merci au Moki Bar et au Café Oscar à Paris pour leur accueil. Prise de son, Florent Bujon, François Saint-Jour, Éric Boisset, Julien Douminc, Noé Chabanne et Anthony Thomasson. Mixage, Éric Villenfin. Documentation, Anne-Lise Signoret et Antoine Billoz. Chargé de programme, Marie-Yvonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. C'était Faire rire sur scène, deuxième épisode, Comment rire de tout, un documentaire de Romain Debecq de Lièvre, réalisé par Anne de Pelchin. Prochain épisode, T'as fait l'école du rire? Retrouvez l'émission sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France. Your majesty, the queen of bees. I'll be your Simba.
actually think that people are gonna get the message?